desde hace más de 200 años, ¿lo recuerdas? Todos los años uno de nuestros niños, ¿lo recuerdas? La mayoría de las veces uno de nuestros varones, ¿lo recuerdas? Escribe para el pabellón de recreo, ¿lo recuerdas? Y concretamente para la última noche de agosto, ¿lo recuerdas? Una obra de teatro, ¿lo recuerdas?
Je me rappelle, de la guerre civile. J'avais 4 ans. Ah ben, je me souviens des gens dans la rue. Mon père était en prison parce qu'il avait fait un attentat avec son frère. Donc, il avait été arrêté. Les bombes avaient explosé dans les mains de mon oncle. Une des bombes a explosé dans les mains de mon oncle et ils ont été arrêtés. Et donc, il était en prison. Et dans le 18 juillet, je me rappelle que ma mère a rempli le frigo. Enfin, le frigo. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, c'était des gardes à manger. Elle nous a rempli ça de nourriture. Et elle nous a dit, sortez pas, vous restez là, vous mangez. Et puis elle est partie dehors faire la révolution. Et nous, on avait une terrasse au premier étage, alors on est monté en terrasse avec ma sœur, et puis on regardait, quoi. On regardait les gens dans la rue se battre, se tirer dessus, et les gens qui nous disaient « rentrez, vous allez vous faire tuer, rentrez ». Mais c'était le spectacle, c'était le cinéma, c'était... on voulait pas entrer, nous.
Mais vous compreniez ce qui se passait ?
Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ben oui, on comprenait parce que mes parents étaient des militants. Il y avait des réunions tous les jours chez mes parents. De route, Lascaux, une compagnie. Je me souviens très bien de Dorothy venant à la maison. Elle m'apportait toujours des paquets de bonbons, je me souviens très bien. Parce qu'elle avait une petite fille aussi, Dorothy. Un tout petit peu plus jeune que moi. Je me souviens quand il y avait les réunions, que je montais au premier étage, ça veut dire. Je montais au premier étage et je surveillais la rue. Au cas où les flics viendraient. Pour descendre, les prévenir, ça rien dire, je n'ai jamais rien dit. Mes parents ne savaient même pas que je faisais ça. J'étais née là-dedans, quoi. Donc je comprenais, oui, complètement. Complètement. Non, j'avais pas peur. Pas du tout, parce que ma mère me disait qu'il fallait pas avoir peur, qu'il pouvait rien nous arriver, qu'il fallait pas avoir peur, alors j'avais pas peur. Voilà, donc je me promenais parmi les bombes, dans les bombardements, persuadée qu'il pouvait rien m'arriver, tu vois. Je me rappelle une fois, il y avait un bombardement, on courait, tout d'un coup je vois un petit garçon décapité, la tête, un petit garçon de mon âge, je dis « Maman, regarde le petit garçon, il a perdu la tête », tu vois. Et non, j'étais pas peureuse, j'avais pas peur. Parce que j'ai un caractère non peureux, quoi. Je pense que c'est ça. J'ai jamais eu peur de rien. Non. Non, j'ai passé les deux guerres. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être entourée de parents aimants, quoi. D'un couple qui s'entendait, d'un couple qui s'aimait. D'un couple qui se respectait, qui nous respectait. Et je crois que j'étais trop jeune pour pas me sentir protégée, quoi. Je me sentais absolument protégée par mes parents. Donc il ne pouvait rien arriver à partir du moment où j'étais avec eux. Mais bon, un enfant, ça a la chance d'être un enfant et de pleurer sur le moment et de jouer 5 minutes après. C'est l'avantage de l'enfance, quand même. Et puis, bon, une maman qui n'inculquait pas la peur, qui disait « Courage, on s'en sortira. » Non, je pense que j'ai pas été une des plus malheureuses. Ou alors on s'habitue.
Donc de partir d'Espagne, ça a dû être dur, parce que vous compreniez aussi que la guerre était perdue.
Ça, partir d'Espagne, c'était très dur. Ah oui, alors ça, c'était très très dur de quitter son pays, sa maison, ses jouets. Je voulais prendre des poupées, ma mère m'a dit « il n'y a pas de place pour les poupées, il y a de la place que pour les humains ». Oui, ça, c'est ça, oui. Ça, pleine conscience de ce qu'on perdait. Bon, parce que quand nous sommes passés en France en 1939, on est passé en France en disant on vient ici pour 2 mois. Hein? Y avait des femmes qui ne voulaient même pas apprendre le français. Parce que, à quoi bon apprendre le français puisqu'on allait repartir très vite, n'est-ce pas? Après, c'était 2 ans. Après, c'était. Et puis après, ça a été la guerre. Et puis après, ben, la libération. Et puis, voilà. Donc. Et tout le monde n'a vécu que pour cela, pour la libération de l'Espagne jusqu'à la mort de Franco. Ben nous, on est parti le 29 janvier, le dernier jour, quand le fascisme est entré à Barcelone. On est parti à la dernière limite. On a réquisitionné un camion et voilà, on a rempli le camion de gens, voilà, direction la frontière. Ben, j'étais avec ma mère, ma soeur, mon père. Oui, je m'en souviens très très bien, descendre du camion. On nous a installés dans le hall. On nous a apporté un bol de café au lait avec du pain, on nous a vaccinés, je m'en souviens très bien. On a séparé les hommes et les femmes, donc mon père a été envoyé dans les camps d'Argelès, à Perpignan. Là, ça a été très brutal, parce que les couples ne voulaient pas se séparer, naturellement. Les couples ne voulaient pas se séparer et les hommes ne voulaient pas laisser leurs femmes et leurs enfants. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient être amenés, on ne savait pas qu'est-ce qui allait nous arriver. Donc là, il y a eu la brutalité de la flicaille, quoi. En une demi-heure de temps, c'était bâclé. Hein. On était dans le hall de la gare et en une demi-heure de temps, on nous a fait sortir et allez hop, direction inconnue. Là, ça fait très peur. Oui, là, ça fait très peur. Nous, on a atterri dans un camp de... Non, pas dans un camp. On a eu de la chance, malgré tout. On a atterri en Corrèze, dans un petit village où il y avait un couvent, un couvent où il y avait des débiles mentaux, et le directeur, il avait de la place. Et le directeur a fait un mur dans le jardin, il a fait un mur, et il a séparé, moitié il a mis les débiles mentaux, et la moitié il a recueilli des réfugiés. On était 1000 femmes et enfants. Là, on n'a pas été trop mal, on est resté 11 mois. On n'a pas été trop mal, là. Par contre, de là, on nous a trimballés dans un camp, dans un vrai camp, dont je ne me souviens pas le nom. Alors là, c'était atroce. Là, c'était vraiment atroce. Des tentes, des rien bouffer, Il n'y avait rien, il y avait que des tentes de couverture pour abriter les gens. Il faisait froid. J'avais 7 ans et demi. J'étais assez effrayée. Alors, on est resté 2 mois. Parce que mon père est venu nous chercher, là. Mon père s'était évadé d'Argelès très vite, il était resté que 4 mois. Il s'était évadé très vite. Il fallait sortir parce qu'on ne leur donnait pas à manger. Et ils n'avaient rien. Hein. C'était ceux qui avaient une couverture avaient fait une cabane avec la couverture en plein mois de février sur la plage, sans nourriture, sans hygiène, les poux, la gale, la dysenterie. Bon, alors la dysenterie, les gens ils crevaient comme des mouches. Quand ils se levaient le matin, il y avait 8-10 gosses de mort tous les matins. Hein. Alors on les jetait à la mer directement. C'était les horreurs.
Et les enfants qui ne mouraient pas, qui tombaient malades. J'ai une tante qui, son fils a été hospitalisé. Et quand elle a été le voir à l'hôpital, il y avait des Français qui l'amenaient. Parce que quand les enfants tombaient malades dans les hôpitaux, les Français avaient le droit de venir choisir un enfant et l'amener comme ça. D'office. D'office. Ils avaient le droit. Elle a récupéré son fils de justesse. Quoi. De justesse. Il y avait un désordre tel que c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Après, la faim, évidemment, ici, moi j'ai connu la faim. Mais comme tous les Français pendant la guerre. Hein. Donc, mon père, il y avait le camp, les barbelés, puis il est parti à Chartres, où il y avait un mouvement anarchiste assez conséquent, donc il était en rapport avec la Fédérica Mancini et compagnie, et qu'on fait des papiers. Et là, quand il a fait quelques économies, il est venu chercher. Mais ça, c'était déjà en 40. Ça, c'était déjà en 40. Donc, on a atterri à Chartres dans une pièce, je me souviens, une pièce, il faisait très froid, il y avait plein de glaçons qui pendouillaient partout dans la pièce, les bouteilles d'eau se gelaient, allaient à l'intérieur. Comme bon, on a vécu tout ce qu'ont vécu tous les réfugiés. Hein. De là, on est parti à Châteaudun. Là, il a commencé à travailler dans une usine de caoutchouc, mon père. Et ça a été juin 40, l'exode. Juin 40, alors les Espagnols, ils avaient fui le franquisme. Et quand les Allemands sont entrés, ils ont fui les Allemands, évidemment, parce que pour eux, c'était la guillotine. Hein. Donc on a pris la route au même titre que des milliers de Français, d'ailleurs, au même titre. On a pris la route de Châteaudun à Montauban à pied. Mon père s'était procuré une petite charrette. On avait mis quelques fringues dedans, ma mère dessus qui était malade, ma grand-mère qui était malade aussi sur la petite charrette, et mon grand-père et mon père et ma soeur et moi à pied. Et on a fait donc 700 km de Châteaudun à Montauban à pied. Et quand on est arrivé à Angoulême, les Allemands, les tanks allemands nous ont rattrapés à Angoulême. Alors, ma mère s'est jetée dans le fossé, les Allemands nous lançaient des chocolats, nous prenaient en photo, nous lançaient des chocolats, des cigarettes. Ma mère qui disait, ne les mangez pas, ils sont empoisonnés. Et mon père qui lui a dit, qui a appelé ma mère par son prénom, et lui a dit, un Carlin, nous mourrons, oui, mais debout. Elle a fait, bon, elle s'est levée, elle s'est mise à côté de son mari, elle est prête à mourir. Et puis les Allemands, non, ils arrivaient triomphants. À ce moment-là, il n'y avait pas de rafle, à ce moment-là. Ils arrivaient triomphants, ils passaient, c'est tout, quoi. Et le chocolat, on ne l'a pas mangé. Et quand on est arrivé à Montauban, ben là, on nous a mis dans un refuge qui s'appelait... La pompone, on disait en espagnol. La pompone. On a atterri à Montauban. Là, on est resté 2 ans. Là, on est resté 2 ans. Ben, on faisait quoi? Les hommes les faisaient travailler. Pour une misère, évidemment, surexploitée, naturellement. Ça fait qu'on crevait la dalle. Ma mère était malade, elle ne pouvait pas travailler. Pas d'école, d'ailleurs, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Et il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de sortir, travailler. Et ils étaient vraiment surexploités, hein, surexploités. Et heureusement qu'il y avait la Fédérica Mancini qui avait organisé pour les réfugiés espagnols des cantines. Tous les jours, on allait chercher une ration du peu qu'il y avait. Du peu qu'il y avait. Parce que déjà, c'était le peu, même pour les Français, c'était déjà. Et en 42, c'est mon oncle qui est parti le premier du camp, là, du refuge, c'était un refuge, et qui est venu ici, qui nous a appelés. Et ici, bon, ben, on s'est déclaré à la mairie. Et voilà, on a atterri ici en 42, dans un petit village à côté d'ici, à Celle. En avril 42, je crois que ça a été après que les Allemands sont arrivés. Alors du jour où les Allemands sont arrivés, où ça n'a plus été zone libre, mais ça a été l'escapade, quoi. C'était l'escapade, il fallait absolument, absolument se cacher, parce que les Allemands, ils venaient tous les jours chercher mon père. Il était dénoncé de partout, son frère a été arrêté, puis les Allemands venaient le chercher tous les jours, et qu'il a été obligé de quitter la maison. Ah oui. Les communistes l'ont dénoncé. Les communistes avaient une énorme animosité contre les anarchistes et se faisaient un plaisir de dénoncer les anarchistes aux Allemands. Les communistes espagnols. Non, non, pas du tout les Français. Non, je ne pense pas que les communistes français avaient cette animosité. Pas du tout, c'était typiquement espagnol ça. C'était lié à ce qui s'était passé en Espagne, c'était lié à... ils étaient hitlériens, je veux dire. Ils étaient marxistes à 100%, ils suivaient à la ligne la doctrine qu'on leur imposait, ils n'avaient pas de... En fait, ils n'avaient pas d'idée individuelle, c'était obéir, quoi. Et il fallait absolument... détrôner tout ce qui était anarchiste. Ça se passait journalièrement, ici. Donc les Allemands sont venus. On a entendu les bottes allemandes, vous savez. Moi je les ai encore dans les oreilles, les bottes allemandes. Hein. Et quand on a regardé par la fenêtre, il était trop tard, quoi. Tout était entouré. Et c'est la seule fois où j'ai vu mon père se dégonfler, quoi. Se dégonfler. Je suis pris au piège, quoi. Et je lui ai dit non, moi j'avais 10 ans, 11 ans. Je lui ai dit non, je n'ai pas pris au piège. Non, tu ne te rends pas. Hein. Il dit, il n'y a pas d'issue. Et je lui ai dit si. Parce qu'en dessous, il y avait une étable avec un âne et deux cochons. Je lui ai dit, moi je t'enferme dans la loge avec les cochons. Mon père, il a dit, mais ils vont crier, les cochons. J'ai dit, non, ils ne vont pas crier. Ils sont plus intelligents que les Allemands. Ils ne vont pas crier. Parce qu'évidemment, j'avais été élevée dans le mouvement. Pour moi, j'étais une petite révolutionnaire, déjà. Et on est descendu, je l'ai enfermé dans la loge, des cochons. Et les cochons, effectivement, n'ont rien dit. Et j'ai ouvert la porte. Et c'était un Allemand, il était très grand. Très beau, très bel homme. C'était un gratté parce qu'il était vraiment plein de médailles. Et qui m'a posé la question, où est ton papa? Il n'est pas là. Et où il est? Mais il est parti. Et où? Voir son patron. Et où? À Quillan. Et comment s'appelle son patron? Moreski. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a cherché sa paye. Il n'a pas été payé. Et il est parti comment? Par l'autobus, hier soir, à quelle heure? À 6 heures. Il revient quand? Demain matin, à quelle heure? À 6 heures. Et donc, je disais à cet Allemand, mais rentrez, il n'y a que ma mère et moi. On est toutes seules. Alors, l'Allemand, il me dit, mais tu parles très bien le français. J'ai dit un petit peu, j'avais des grandes nattes, là, l'espagnol, un petit peu. Et je disais, mais entrez. On n'a qu'une pièce à un grenier. Alors, c'est vite fait d'être fouillé. Rentrez, vous verrez bien, il n'est pas là, mon papa. Et je suis sûre, je l'ai senti, que cet Allemand a eu pitié de moi. Je suis sûre, je l'ai senti que cet Allemand a eu pitié de moi. Parce qu'il m'a caressé les cheveux et il m'a dit, ça va, rentre. Et ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés fouillés. Ils sont repartis, alors j'ai ouvert la porte, la loge des cochons. Et mon père est sorti, il m'a pris dans ses bras, et là j'ai eu une crise de nerfs, par contre. Là j'ai eu une véritable crise de nerfs. Mais là je lui ai sauvé la peau. Hein. Donc qu'il a été obligé de partir. Jusqu'à la libération, quoi. Jusqu'à la libération. Ma mère est tombée très malade quand il est parti, mon père. Et puis, quand il est revenu à la libération, ma mère était diabétique. Il fallait de l'insuline. Il n'y avait pas d'insuline en France à l'époque. En 1945, il n'y avait pas d'insuline en France. Il fallait l'acheter au marché noir. C'était très, très cher. Et mon père a commencé à faire de la contrebande pour acheter de l'insuline qu'il fallait à sa femme, parce que sans ça, il ne la sauvait pas, quoi. Donc il a commencé à faire de la contrebande, du marché noir, aller à pied d'ici à Andorre, acheter du tabac, redescendre, revendre le tabac, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et après, on est parti à Paris. Et à la retraite, on a acheté ici. À la retraite. Et on est resté là. Et on est resté là.
De niño por amores, es niño y pasó la mar, para dar agua a su caballo.
Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de français. Je sais que ça existait, je sais que ça existait dans d'autres lieux et avec d'autres genres. Ça, le racisme a existé. Moi, je n'ai pas connu le racisme. Deux ou trois enfants à l'école. Bon, je réfléchis une année. Ils n'ont pas recommencé, quoi. Ce sont tous devenus mes amis. Et ce sont mes amis encore aujourd'hui. Il y avait à l'époque énormément d'Espagnols qui... Et forcément, la frontière, c'était inondée d'Espagnols. Il y avait énormément d'anarchistes, il y avait des communistes aussi. Il y avait des communistes aussi, des socialistes aussi. Il y avait énormément d'anarchistes. Il y avait, à ma foi, il y avait un énorme mouvement anarchiste à l'époque. Les gens d'ici, étant donné que c'était la guerre et que c'était des révolutionnaires, tout ça c'était des révolutionnaires, et la plupart ont pris le maquis, même mon père a pris le maquis, on était très respectés, quoi. Aucun moment on a été rejetés comme ont été rejetés les Arabes ou les... en tout cas pas ici, pas dans l'Ariège, parce qu'il y avait ce grand mouvement de guerrieros dans les montagnes et qui défendaient la France. Et qui défendaient la France. Au même titre qu'ils défendaient leur propre liberté. En étant persuadés qu'à la fin de la guerre, il y aurait une continuation et que il y aurait, par automatisme, il y aurait la libération de l'Espagne. Hein, la libération du franquisme. Et oui. Et puis bon, c'est vrai que c'est la fleur de l'Espagne qui est arrivée quand même, hein. C'est pas ces hommes qui arrivaient avec une conscience politique, une conscience sociale, une conscience morale. C'était pas des truands, c'était pas des voleurs, c'était pas des feignants, c'était des hommes responsables. C'est une génération de c'est la conscience qui est arrivée. Et je pense que si mon père n'était pas mort, il serait reparti naturellement. Et j'étais tellement proche de mon père, je suppose que je l'aurais suivi, malgré les enfants en France. Je regrette parce que, à un moment donné, il avait voulu écrire ses mémoires. Moi, je travaillais. Et le soir, quand les enfants étaient couchés, moi, j'étais crevée, il me dictait, moi, j'écrivais ce qu'il me disait. Et ça nous amenait à 2h du matin, tout le temps, 2h du matin. C'était super intéressant. J'ai oublié tout ça. Hélas. Et puis un beau jour, j'ai plus voulu écrire parce que j'étais trop fatiguée, j'ai dit non, je suis trop fatiguée. Et alors il s'est vexé,
Et il s'est vexé, il m'a dit, il a tout déchiré. Il a tout déchiré, il m'a dit, par ta faute, mes petits-enfants, ils ne sauront pas qui j'étais, qui était leur grand-père. Et je regrette, hein, mon Dieu, que je regrette. Je me considère internationale, franchement, j'en ai rien à foutre. Avant les frontières, oui, quand même. Avant les frontières, de toute manière, j'ai pas de nationalité. Quand je suis ici, je suis étrangère. Quand je vais là-bas, je suis française. Alors, de toute manière, on m'a toujours considérée comme une étrangère, où que j'aille. Ici, je suis étrangère, là-bas, je suis étrangère. Alors, ça me fait rire, quoi. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Complètement, complètement. Qu'est-ce que c'est que d'être. Avoir. Ah non, alors devenir nationaliste et puis quoi encore, non, non. L'horreur, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu veux un petit café avec. T'as pas mangé de gâteau, hein? Ben si, il faut manger. Tu veux que je chauffe le café? Mon nom? Mon nom de jeune fille, alors, Los Continente. Los Continente.